Galaxie BD
sur la première.
Bonjour Marjorie et Joris Chamblain.
Bonjour. Bonjour.
Joris Chamblain, voilà une quinzaine d'années que vous êtes dans la bande dessinée. Aujourd'hui, l'écriture occupe tout votre temps. Pour beaucoup, votre nom reste associé à celui d'une série qui a fait un malheur chez les plus jeunes lecteurs et lectrices, surtout les lectrices d'ailleurs, Les Carnets de Cerises, dessinés par la talentueuse Aurélie Néret. Vous avez d'autres séries jeunesse à votre actif, de même que des romans. Et vous avez notamment assuré le scénario de deux tomes de la célèbre série Yakari. Joris Chamblain, qu'est-ce qui anime un auteur jeunesse à retrouver les émotions de son enfance ou ne pas grandir?
Les deux, mon capitaine. Surtout pas grandir, non, ouais, entretenir l'enfant intérieur, et j'ai travaillé beaucoup avec des enfants. Retrouver l'innocence de l'enfance, retrouver le goût du jeu et continuer à jouer tout le temps.
Vous avez choisi de travailler avec des dessinatrices le plus souvent.
Ouais.
C'est pas un hasard.
Non, c'est pas un hasard. Enfin, si, je sais pas trop. C'est une sensibilité particulière. Dans les histoires que j'écris, il n'y a pas de colère, et je retrouvais plutôt ça chez les femmes. Mais après, au début, j'ai commencé beaucoup avec des femmes. Il y a eu vraiment trois séries principales. C'était Le Sorcière Sorcière d'Annie Mandy et Les Carnets de Cerises. Mais au final, quand on regarde avec le nombre de gens avec qui j'ai travaillé, il y a autant d'hommes que de femmes. C'est surtout au début où j'avais cette étiquette-là.
Marjorie Chamblain, vous êtes éditrice, chroniqueuse littéraire, passionnée de bande dessinée, de romans young adultes, de fantasy, entre autres. Votre Instagram, c'est une collection de couvertures jaspées qui parlent d'elles-mêmes. Vous connaissez Joris depuis 25 ans. Ce n'est que très récemment, pourtant, qu'il vous a convaincu que vous aviez des histoires à écrire, vous aussi. Alors, comment devient-on scénariste quand on a l'habitude d'être de l'autre côté du livre ?
C'est une excellente question. Joris, ça fait des années en fait qu'il essaye de me faire écrire, et il fallait simplement qu'à un moment je me décide, ce qui n'est pas si évident. Et c'est venu en fait en discutant de cette série, donc Ultime Frisson, on s'est dit allez, on l'a fait ensemble pour de bon, quoi.
Et vous aviez déjà fait un petit galop d'essai, au Lombard d'ailleurs.
Oui, ouais. Une histoire courte dans un collectif de Noël.
Voilà, c'est ce qui vous a vraiment convaincu que vous étiez peut-être potentiellement une scénariste dans l'âme ?
Oui, complètement. Ouais.
Ouais. Et on s'est surtout connus en faisant de la bande dessinée. En fait, elle avait créé un fanzine quand elle avait 18 ans, et dans lequel je suis arrivé 2 ans après. C'est là qu'on s'est rencontrés, donc elle a toujours eu le goût de la BD. Quoi.
Bah, le goût du livre, de toute façon, de manière générale. C'est très important pour moi.
Lectrice compulsive, on peut le dire ?
Oui,
votre Instagram en témoigne, je n'invente pas.
J'assume complètement mon côté lectrice compulsive.
Galaxie BD
sur la première.
Joris et Marjorie Chamblain, vous êtes unis, si j'ose dire, non seulement dans la vie, puisque vous êtes mariés femmes, enfin je ne sais pas si vous êtes mariés, ça ne nous regarde pas, mais en tous les cas vous êtes aussi co-scénariste sur cette série qui s'appelle Ultime Frisson, série destinée aux 9 ans et plus, c'est ça à peu près la cible ?
Oui, à partir de 8 ans.
Voilà, à partir de 8 ans, comme le dit le nom de la série, le but est d'arriver à faire frissonner tout en respectant, évidemment, puisque vous en avez un qui est derrière la vitre, ce que les enfants ont besoin d'avoir comme guide et comme protection, on va dire. Le but n'est pas de faire peur pour faire peur.
Tout à fait, oui. On a vraiment fait attention à ce que ce soit parfait, en fait, vraiment pour cet âge-là, qu'il y ait suffisamment de peur, mais quand même pas trop, que l'histoire finisse bien, à peu près, en tout cas.
Disons que le danger est réel, mais il n'y a pas de traumatisme, enfin, il n'y a pas de truc choquant, quoi.
Il a quel âge, le garçon derrière la vitre ?
8 ans.
Il est dans la cible ?
Oui.
On devrait lui demander s'il est... S'il n'est pas trop traumatisé par la lecture des deux premiers. Ah non, il court là, il est tout content. Il dit non, pas du tout. Il fait des signes.
Il a dit, ça fait peur, mais juste ce qu'il faut.
C'était votre public test ?
C'est ça.
Ouais. Alors il y a eu un premier album qui s'appelle Panique sur l'île, un deuxième qui s'appelle Momie sur Mars, puis ça va continuer. Il y a différentes thématiques en fait. Ce qui relie les albums, c'est le début et la fin. C'est un personnage fictif qui fait pas très peur, mais qui est un peu l'introducteur de chaque histoire. Oui, c'était important, ça, d'avoir ce personnage ?
En fait, on a réuni un peu tout ce qui nous plaisait dans les années 90. Donc, nous, on a grandi avec la série Chair de poule en roman. Donc, c'était vraiment des one-shots à chaque fois, avec des héros différents, des histoires différentes. Ça pouvait aller dans tous les sens. Des fois, c'était sur d'autres planètes. Des fois, c'était dans le passé, dans le futur. Et un peu plus tard, on a eu les Contes de la Crypte, avec ce personnage du mort-vivant là, qui présente chaque épisode, quoi. Et dans la BD, il y a eu quelques tentatives de bande dessinée autour de ce thème-là, de BD qui font peur pour les enfants. Mais on trouvait que ça ne fonctionnait pas quand c'était toujours les mêmes personnages qui vivaient plein d'aventures différentes. Nous, on s'est dit, tiens, on va faire autre chose. Et on a eu l'idée de ce personnage. Donc, on a repris un peu le thème des Contes de la Crypte, d'un personnage qui présente vraiment des intrigues. À chaque fois, donc c'est Jeffrey, donc Jeffrey, un fantôme qui fait peur, n'est-ce pas, dans son manoir, qui nous présente chaque histoire et qui la conclut aussi pour faire le fil rouge. Et entre les deux, il y a un album complet. Et à chaque fois, il y aura un dessinateur différent aussi.
On va les citer, hein, Gabriel et Bagnoli pour le premier Panique sur l'île et Elisa Ferrari pour le deuxième Momie sur Mars.
Qui sont mari et femme dans l'histoire aussi. Enfin, dans la vraie vie.
C'est amusant, ça. C'est une histoire de famille.
C'est ça.
C'est le hasard, mais c'était assez rigolo d'avoir justement deux couples.
On leur a envoyé les deux scénarios en même temps et on leur a dit, choisissez qui fait quoi.
Vous partagez chacun.
Magnifique. Le premier album, il se passe donc, comme le dit Panique sur l'île, sur une île sur laquelle on aurait tourné des séquences importantes d'un film qui ressemble très fort à Indiana Jones, y compris son titre. Et on va avoir un duo, et ça c'est très beau ce duo, ce sont ni des frères et sœurs, ni des amis, ce sont des cousins-cousines. Enfin, un cousin et une cousine. Le garçon est le plus petit, il est un peu peureux, c'est le geek. Et puis, elle, c'est l'aventurière. Sa mère a fait la terre entière, etc. C'était bien d'inverser les codes comme ça ?
J'avoue que je n'ai même pas réfléchi au fait d'inverser les codes. Ils sont venus vraiment naturellement, en fait. On s'est dit, sur une île, forcément, il faut qu'il y en ait une qui arrive à se débrouiller et un autre pas très doué, en fait.
C'est le classique buddy movie. On oppose deux caractères complètement opposés pour créer un peu créer de la friction, créer du dialogue, créer de la dynamique. Donc, on avait quand même besoin, effectivement, de quelqu'un qui sait à peu près se débrouiller. Enfin, qui sait faire quelques trucs, donc à l'opposé, il en fallait un complètement à la ramasse. Et il se trouve que les genres vont un peu se renverser aussi, parce que lui va se laisser pousser des ailes, elle va se faire un petit peu posséder. Donc, c'est de la dynamique, en fait.
Comment est-ce qu'on écrit pour faire peur, sans trop faire peur, tout en faisant peur ?
Je crois qu'à la base, il faut déjà être passionné de tous ces récits et s'en nourrir. On a parlé de Chair de poule, des Contes de la Crypte, il y a beaucoup de pop culture aussi, un peu de Goonies pour l'aventure. Donc je crois qu'on s'est vraiment... On a été nourris à ça nous-mêmes, donc...
Goonies,
Indiana Jones,
tout ça, c'est Spielberg.
Est-ce
que Spielberg, justement, c'est pas quelque part... son fondement,
mais
même s'il a beaucoup évolué au fur et à mesure de sa carrière.
Le vrai Spielberg, c'est Hook.
Oui.
C'est là où il est le plus proche de qui il est au fond, enfin de l'enfant qu'il a au fond, quoi. Donc oui, c'est ça qui nous a inspiré. C'est notre culture à nous. Et après, on est attentif quand même.
Marion ?
Est-ce que vous avez mis des limites justement aux personnes qui ont mis vos histoires en images par rapport au gore, jusqu'où ils peuvent aller ? Parce que moi, c'est ça aussi qui aurait pu me faire peur, je pense, c'est les dessins, la représentation des monstres, entre guillemets. Il n'y a pas non plus de sang, etc. Mais c'est peut-être ça qui aurait pu être plus touchant pour les plus petits ?
Oui, complètement. C'est nos limites. C'est comme je disais tout à l'heure... par rapport au style que je recherche et qu'on recherche maintenant, c'est deux dessinateurs qui n'ont pas de colère dans leur dessin. Donc déjà, ça va, en fait. Les dangers sont réels. Les personnages sont vraiment en danger de mort dans ces histoires. Mais ça passe parce que les couleurs sont chatoyantes, parce que la dynamique est très drôle.
C'est pas des images qui vont nous hanter pendant des
semaines.
Non.
On voulait vraiment pas ça. On voulait vraiment pas créer des traumas ou être cruel juste pour le jeu. Non, on voulait des histoires fun avant tout, quoi.
On rajoute beaucoup d'humour aussi dedans, justement, pour contrecarrer le côté peur. Mmh.
Juliette, je vous voyais acquiescer quand on parlait de Chair de poule. Vous les avez lues aussi dans votre adolescence.
Grand classique dans la bibliothèque municipale. Moi aussi, bon, c'est peut-être moins mes années, mais j'en ai lu pas mal. Ouais. Assez traumatisant, moi, je trouve. Mauvais souvenir. Mais...
Vous a pas donné envie de faire ce genre de bande dessinée?
Je ne suis pas très horreur, moi. Mais ça m'a vacciné, je crois.
quand on parle de ne pas avoir de colère dans son dessin, vous, c'est un peu l'inverse.
Oui, j'entendais parler de colère et d'écriture. C'est vrai que moi, c'est plutôt l'inverse. Moi, Jardin d'Éden, c'était la colère militante. Et d'ailleurs, dans les références de BD dont on a parlé hors enregistrement, c'est vrai qu'il y a pas mal d'ouvrages qui traitent de colère. Je trouve que c'est un sujet intéressant, c'est un sujet vaste.
Mmh. Et la colère peut être un moteur de création?
Je pense que oui, mais je pense que voilà, il y a différentes colères. Et d'ailleurs, Myrion Mal s'est emparée du sujet et encore récemment avec Clémence en colère. Pour moi, c'était un bouquin vraiment hyper intéressant parce qu'elle parle justement de la colère qui te ronge et qui te bouffe et qui te consume et qui peut être négative, mais aussi de la colère militante, la colère qui permet de se défendre, qui permet de se sentir en vie aussi parfois quand on vit des choses dures. Donc voilà, moi je trouve que c'est à nuancer.
Si vous en avez fait état plusieurs fois, Joris et Marjorie, c'est parce que vous vous destinez à un public plus jeune, plus enfantin, et que vous voulez, au contraire, essayer de conserver dans vos bandes dessinées un équilibre entre ce qui fait peur, ou ce qui est triste, ce qui est grave, comme dans les carnets de cerises, et une forme de graphisme qui va permettre que tout ça soit bienveillant.
Oui, c'est ça. La colère me fait peur, en fait, tout simplement. Donc, je pense que c'est pour ça que j'essaie de, personnellement, de pas trop l'aborder. Enfin, je l'aborde, mais d'une autre façon, quoi. Je vais chercher d'autres sentiments. Et puis, oui, comme on écrit pour les enfants, on a une certaine responsabilité à les faire grandir dans un cadre bienveillant. J'ai travaillé pendant 9 ans en école primaire et tout ça. Donc, enfin, c'était. Enfin, clairement, la colère, c'est le truc qu'il faut enlever, quoi, pour permettre aux enfants de leur créer un espace sécurisant. C'est vraiment ça qu'il faut savoir gérer en premier. Et après, là-dedans, dans ce cadre-là, on peut aborder tous les sujets et de plein de manières différentes.
Alors, votre série, je ne sais pas combien d'albums sont prévus, mais il y en a 2 pour le moment, il y en a déjà qui sont programmés. Ouais. Il faut trouver des histoires. Marjorie, Momie sur Mars, par exemple, c'est vous qui avez eu l'idée?
Alors non, Momie sur Mars, pour le coup, c'est Joris qui est parti, en fait, qui a eu l'idée du titre, tout simplement, en fait.
Ouais, non, Marjo, c'est Lille qu'elle a fait. Voilà. ouais, moi j'ai eu cette allitération Momie Mars en fait. En fait, j'ai eu l'image d'un scaphandre avec un corps dedans et je me suis dit, tiens, ça ressemble à un sarcophage. Et donc, je suis parti autour de cette thématique-là. Non, Marjo, c'est l'autre
album. Sarcophage dans lequel il y a quelqu'un qu'on va réveiller et qui n'est pas content d'être là.
C'est ça.
Donc la colère, elle est quand même là.
Oui, non,
parce
mais voilà.
Elle veut se venger. Hein.
Elle veut, c'est une momie russe qui veut rentrer à la maison, quoi.
Voilà. Chaque fois, il va falloir trouver comme ça des univers qui sont complètement différents les uns des autres, où de temps à autre, on peut quand même avoir des histoires qui sont plus ou moins semblables.
Disons que il y aura le tome sur l'île, c'est ce qu'on appelle une Robinsonade. C'est des enfants perdus sur une île. Donc, une Robinsonade, il y en aura peut-être d'autres, mais ce sera peut-être des enfants perdus sur une météorite, des enfants perdus dans un manoir hanté. Enfin. Il y a un moment où les archétypes des histoires, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, on va retomber dessus. Mais les deux prochains sont déjà radicalement différents de ceux-là.
Par contre, des choses qui font peur quand on est petit, il y en a plein. Donc, il y a moyen d'aller chercher des éléments.
C'est l'idée.
Vous vous souvenez de vos propres peurs, tous les deux?
Les momies.
Je ne sais pas du tout.
Les peurs, ouais. La peur de l'abandon, essentiellement.
Oui, j'allais dire, ouais, c'est ce qui m'est venu aussi à l'esprit.
C'est pas dans le souvenir, en tout cas, vous allez chercher vos scénarios. Merci à tous les deux. Donc, vous êtes les deux scénaristes, Marjorie et Joris Chamblin, de ces premiers albums de la série Ultime Frisson, Panique sur l'île et Momie sur Mars, pour rappel, tous les deux parus au Lombard.
La première, Galaxy BD.